Une partie de du Sefer Shemot, la partie qui est consacrée au Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Vous vous souvenez probablement que la tante de Sarah, Imenu, elle était caractérisée par trois choses. Ils se sont retrouvés par la suite dans cette même tente quand elle a été habitée par Rivka, la femme de Yitzhak. Et ces trois choses qui étaient donc la bracha sur la pâte, elle faisait une pâte, elle avait toujours plus que ce qu'elle avait mis comme farine, etc. Il y avait un air d'alouk, une lumière qui brûlait en permanence. Et puis, il y avait un espèce de petit nuage qui était accroché à la tente. Ces trois choses-là, le Ramban dit, on retrouve ces trois choses-là dans le Mishkan. L'histoire du pain, c'est comme vous savez, on mettait sur le Shulchan, il y avait une table sur laquelle on posait 12 pains. On les mettait Shabbat et il restait toute une semaine sur place. Et ils étaient néanmoins complètement frais quand on les enlevait de cette table et que les Kohanim allaient les manger, puisque de Shabbat en Shabbat, on renouvelait les 12 pains en question. Donc ça correspond à la bracha dans la pâte. Il y avait une fraîcheur permanente de cette pâte. Il y avait évidemment la lumière, la menorah. Et puis il y avait aussi une nuée qui couvrait le Mishkan. En d'autres termes, le Mishkan est d'une certaine manière une copie de la maison de Sarah. Oui. Quoi? Oui. Voilà. Une copie de la maison de Sarah. Donc, en général, une copie de la maison juive, en fait. Et à la limite, quand le Mishkan va disparaître, puisqu'il va disparaître, il va être remplacé par le Beth Amikdash, mais quand le Beth Amikdash va disparaître, d'une certaine manière, c'est la maison qui doit représenter, enfin, qui est le Mishkan. C'est-à-dire, on a passé d'un stade collectif. On avait un Mishkan ou un Beth Amikdash pour l'ensemble du clan d'Israël, et ensuite ça se distribue dans toutes les maisons juives en fait. Toute maison juive doit être, d'une certaine manière, un Mishkan. Et du coup, il faut se rappeler ce que Hachem avait dit. Il a ordonné dans la mitzvah de construire la mitzvah de construire le Mishkan. C'est une mitzvah en soi. Y a une discussion entre le Rambam et le Ramban pour savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de construire le Mishkan. Et dans le Mishkan, il faut construire l'autel, il faut construire la menorah, il faut construire le Shulchan, etc. Mais c'est des éléments constitutifs du Mishkan, donc il y a une seule mitzvah, construire le Mishkan avec tout ce qu'il contient. Ou bien peut-être, certains pensent, il y a une autre opinion qui dit qu'il y a une mitzvah de construire séparément le Mishkan, le Mikdash, le Mizbéach, l'autel, la menorah, une mitzvah de construire le Shulchan, etc. On ne va pas entrer là, dans cette distinction-là, mais bon, il faut le savoir. Mais la grande question qui se pose, c'est d'une certaine manière, vous savez bien que HaKadosh Baruch Hu a dit Vasuli Migdash Veshachanti Betocham. Hachem a dit, il a donné l'ordre qu'on lui fasse un Mishkan, une résidence pour lui. Alors a priori, s'il a demandé une résidence pour lui, ben c'est pour y résider. Donc le pasouk aurait dû dire Veshachanti Betocho. Je résiderai dans ce Mishkan. Mais comme vous savez bien, le pasouk ne dit pas ça, le pasouk dit Veshachanti Betocham. Et là-dessus, les Chachamim ont fait une dracha. Ils ont dit qu'il fallait l'entendre Belev Kol Echad Ve'echad. La résidence d'Hachem, elle doit être dans le cœur de chacun. Et si la résidence d'Hachem, essentiellement, elle est dans le cœur de chacun, on peut se demander, dans ce cas-là, à quoi sert la construction d'un Mishkan? Pourquoi est-ce qu'il faut faire cette construction collective? Alors, c'est pas très clair, mais c'est presque. Toute révérence gardée, si vous voulez, c'est comme si la construction du Mishkan comme construction collective, c'était presque un pense-bête, au sens où quelque chose qui doit nous rappeler en permanence qu'on doit construire un Mishkan personnel dans le cœur de chacun. Alors, du coup, s'il y a une mitzvah minatora de construire le Mishkan, alors la question qui se pose, mais pourquoi est-ce que nous le construisons pas? Pourquoi on le construit pas? Depuis quand est-ce que quand on y a une mitzvah de Raita, on la pratique pas? C'est étonnant. Si vous voulez, la question de est-ce qu'on va apporter, est-ce qu'on va dans cette construction de Mishkan, est-ce qu'on va amener des korbanot ou pas, c'est une autre question. La question des korbanot, c'est une autre question. La construction du Mishkan, c'est une nécessité. Après, dans ce Mishkan, on peut aussi apporter des korbanot, mais le Mishkan a une valeur en soi. On n'a pas besoin d'obligatoirement y apporter des corbanotes. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Une première réponse, c'est de dire que si on se mettait à construire aujourd'hui un Beth Amikdash, qui c'est la suite du Mishkan, donc, un Beth Amikdash, il y aurait la guerre, parce qu'il y a obligatoirement la guerre. Et s'il y a la guerre, alors, ça entraîne Pikuach Nefesh. Ça met la vie des gens en danger. Oui, par exemple. Et c'est pour ça qu'il y a une condition. Bien que condition nécessaire, c'est qu'il y ait le shalom. On le voit par exemple que une des lectures simples, en tout cas, c'est que David, lui, il n'a pas pu construire parce qu'à son époque, il n'y avait pas encore le shalom. Mais Shlomo, qui a eu le shalom, son époque, lui, il a pu construire le Beth Amikdash. Ça, c'est une première réponse. C'est-à-dire qu'il faudrait d'abord avoir le shalom. Quand il y aura le shalom, alors on pourra construire. S'il y a le shalom, alors on doit construire. Il y a une deuxième réponse, qui est la réponse du Rambam. Le Rambam, il dit que la construction du Beth Amikdash, c'est une des tâches du Mashiach. Et pour Maïmonide, Rambam, et pour Rambam, en fait, il faut faire d'abord construire le Mishkan, le Beth Amikdash, et après, il y aura la paix. Pour Rambam, ça va dans cet ordre-là. Donc, c'est le contraire de la première réponse. Quoi? Voilà. La troisième réponse, c'est qu'effectivement, la construction du Beth Amikdash, ça n'est pas à la charge du clan Israël. Le troisième Beth Amikdash, il doit être construit par Hachem. Alors, ça, là-dessus, il y a une question. C'est pas normal qu'il y ait une mitzvah de construire et que ce soit Hachem qui la construise. Les mitzvot, c'est les mitzvot pour les hommes. Donc s'il y a une mitzvah, normalement, c'est les hommes. Donc la réponse qui dit c'est à la charge d'Hachem, c'est un peu compliqué comme idée. Il y a un Yerushalmi qui dit très clairement que il faut construire d'abord le Beth Amikdash et ensuite le Mashiach. Ensuite vient le Mashiach. Donc, c'est-à-dire exactement le contraire de Rambam. Parce que Rambam, il dit il faut d'abord le Mashiach. C'est un Yerushalmi. Donc ça veut dire que les gens qui disent aujourd'hui qu'il faudrait construire d'abord, avant même le machin, ils ont sur quoi s'appuyer? C'est un Yerushalmi. Talmud Yerushalmi dit clairement comme ça. Bien. Alors, on a vu déjà assez amplement, on a vu une marloquette entre Rashi et Ramban sur Matan Torah, enfin sur ce qu'il y avait avant Matan Torah. Vous vous souvenez, on a vu que Rashi il disait que En Mukdam ou Meuchar Batorah, il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, et que la paracha de ce qui était écrit dans Mishpatim, en vérité, il fallait le lire comme si c'était écrit avant Matan Torah, avant les Aseret HaDibrot, alors que Ramban, Nachmanide, il disait non, non, il faut le lire dans l'ordre, comme ça. On a surtout parlé de la Shita de Rashi, mais le Ramban, il dit le contraire. Bien, cette marloquette, elle continue ici aussi. Il y a aussi une marloquette à ce sujet-là. C'est sur la chronologie du Mishkan, en fait. Donc, évidemment, le Ramban, il dit, il faut lire comme c'est, dans l'ordre. Alors, c'est quoi l'ordre? L'ordre qu'on a eu ici, c'est Matan Torah, Et puis, après Matan Torah, Moshe Rabbeinu est monté sur le Sinaï. OK? Et à ce moment-là, Hachem a donné à Moshe Rabbeinu toutes les instructions sur la construction du Mishkan, c'est-à-dire tout ce qui est dans la paracha de Trouma et la paracha la semaine prochaine de Tetzaveh. Ce sont les instructions d'Hachem sur la construction du Mishkan. Et quand Moshe Rabbeinu était dans ce processus de montée, il y a eu le Chet HaEgel, il y a eu la faute du Hegel. Et du coup, Moshe Rabbeinu a dû remonter, etc., pour obtenir le pardon d'Hachem. Et à ce moment-là, quand il est redescendu la troisième fois, Hachem a donné l'ordre à Moshe de construire le Mishkan dont il lui avait donné les instructions auparavant. Mais la construction, c'est Vayakhel Pekoudé. Bon, dans la parasha du. Donc, ça veut dire, on a d'abord Yitro, Matan Torah, Mishpatim, Moshe Rabbeinu qui commence pour monter pour recevoir la Torah, et il reçoit, entre autres, l'enseignement nécessaire pour construire le Mishkan. Dans ce processus où il est en train de monter pour recevoir la Torah, il y a le Hegel, ça c'est Parshat Ki Tissa. Après, donc, Moshe doit essayer de réparer, il répare. Et quand il redescend, Hachem lui dit, OK, maintenant on construit le Mishkan. Et ça, c'est les parashiot de Vayakhel Pekoudé. Ça, c'est la chronologie qui est la nôtre. Si on lit le texte de façon continue, c'est Ramban. Rashi, il n'est pas d'accord. Rashi dit, il faut changer l'ordre. Rashi dit qu'a priori, le Mishkan, toute l'histoire du Mishkan, donc les parshiot Truma Tetzaveh, tout ça, c'est à lire après la faute du Vaudor, après Ki Tissa. Il y a trois façons, entre autres, il y a trois façons de lire Rashi. Une première façon, c'est la lecture du Sforno, Sforno, Sforno. Pour lui, donc, le Hegel, la faute du Hegel, elle entraîne une distance. Le peuple est donc, par sa faute, il est à distance d'Hachem. On a perdu la proximité avec Hachem. Il va falloir réparer. Et la réparation, elle se fera par le Mishkan. Alors, du coup, on a une question. Mais pourquoi alors? Pourquoi si le Mishkan n'est que rendu nécessaire à cause de la faute. Alors pourquoi on nous parle de la construction du Beth Amikdash au temps du Mashiach? Au temps du Mashiach, on a réglé les problèmes, donc on n'a pas besoin de construire un Beth Amikdash. Donc ça, c'est une question sur cette lecture-là du Sforno. Ça veut dire que le Mishkan, c'est en quelque sorte un Onesh. Une sanction. Ça viendra. C'est un honnêche. Il faut on est puni en quelque sorte, et du coup, c'est ça la fonction d'un Onesh. Qu'est-ce que c'est un Onesh? Le Onesh, c'est pas une punition bête et méchante. Un Onesh, c'est un moyen de réparer. N'y a pas de Onshin qui ne soit pas des moyens de réparer. Je vous ai dit, par exemple, qu'il existe un Onesh comme sanction de celui qui tue par inadvertance, qui va dans une ville refuge. Il est exilé dans une ville refuge. Si quelqu'un tue en toute connaissance de cause, et après avoir été averti, etc., celui-là, il a une peine de mort. Je pose la question, si quelqu'un tue en toute connaissance de cause, mais sans avoir été averti, sans qu'il y ait des témoins, ou pas de témoins cachers, mais des témoins qui ne nous laissent aucun doute. Supposez que quelqu'un a tué les deux témoins qui étaient là, c'est Moshe et Aaron. On n'a pas de doute que s'ils nous disent qu'il a tué, s'il a tué. Mais Moshe et Aaron, comme père de témoins, ils ne sont pas cachers parce qu'ils sont des frères. On peut pas être frère. Deux frères ne peuvent pas témoigner en même temps. Donc l'assassin, dont on sait qu'il est clairement un assassin, on ne peut pas le condamner. Alors, dans la Gemara, on dit, ben alors on devrait au moins l'envoyer en exil. Et la réponse de la Gemara, c'est il n'en est pas question. Parce que l'exil n'est pas du tout suffisant pour réparer la faute qu'il a commise. Et si l'exil ne répare pas, alors on n'envoie pas quelqu'un en exil. On ne va pas donner à quelqu'un un onesh, une sanction, si elle ne répare pas. Ça, c'est pour expliquer pourquoi c'est un onesh. La deuxième lecture de Rashi, c'est de lire comme le Kuzari, comme Rabbi Yehuda HaLevi. Il y a une forme de paradoxe. La Torah est évidemment contre l'idolâtrie. La Torah est contre les images. Or, vous savez bien, bon, ça sera dit dans cette paracha, que dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Essentiellement, il y a un Aaron. Et ce Aaron, en plus du Aaron, il y a un couvercle du Aaron. Et ce couvercle du Aaron, on va voir, c'est une chose pour soi. Ce n'est pas simplement un accessoire de la boîte dans laquelle on va mettre les louchot, qui est le Aaron. Il a une fonction, puisque sur ce caporet, il y a les Krouvim. Et puis c'est là-bas qu'on va mettre de l'encens. Il y a des choses qui sont faites à la caporette, sur le caporette. Alors, on n'aime pas les images, et dans le Kodesh HaKodashim, il y a la représentation de deux Krouvim. Comment c'est possible? Alors que la Torah, elle est contre les représentations. Ça veut dire, pour le Kuzari, si les Bnei Israël ne peuvent pas se connecter avec Hachem sans un support, alors Hachem va leur donner un support, un moyen, mais un moyen cachère. C'est-à-dire, on ne va pas leur permettre l'idolâtrie générale. L'Hachem va dire, si vous faites exactement ce que je vous prescris, alors ça restera cachère. C'est-à-dire qu'en fait, bien entendu, le Mishkan, il est entièrement pour nous. Parce que nous ne savons pas, d'après le Kuzari, nous ne savons pas nous connecter avec Hachem si on n'a pas un support. Alors Hachem a accepté de nous donner un support. Évidemment, ça veut dire qu'on prend un risque. Parce que ce support-là, il est très proche de l'idolâtrie. C'est ça qui donne le Hegel, en fait. Dès qu'on a besoin d'un support, alors même si au départ le Hegel n'était pas une idole, mais les Bnei Israël ont dit, si on n'a pas Moshe Rabbeinu pour faire le lien avec Hachem, on n'y arrive pas. Il faut remplacer Moshe Rabbeinu. Et pour remplacer Moshe Rabbeinu, on ne pouvait pas prendre un homme. Parce que tous les hommes existants n'étaient pas Moshe Rabbeinu. Ils pouvaient pas, ils sont ce qu'ils sont, y compris Aaron. Ils peuvent pas jouer le rôle de Moshe Rabbeinu. Et donc, ils ont essayé de faire un truc. On l'appelait comme ça au départ. C'est pas une idole. C'est un truc. Alors, c'est pas sûr du tout que eux aient visé de faire quelque chose qui a une figure de Hegel, de veau d'or. C'est sorti un veau à cause de la fameuse plaquette sur laquelle Moshe Rabbeinu avait écrit Allez, Chor, monte, taureau. C'est ce qui a fait monter le veau d'or. C'est ça qui est sorti du creuset de cet or en fusion. Ceux qui ont demandé à Aaron, fais-nous quelque chose, ils n'ont pas demandé à Hegel. Mais le problème, c'est qu'après, ils se sont dit, mais il faut qu'on charge pour que ce truc-là, je l'appelle truc pour bien pas lui donner de nom, si vous voulez, pour que ce truc joue le rôle de Moshe Rabbeinu, il faut qu'on le charge, qu'on lui donne un peu d'épaisseur. Donc on a voulu lui donner l'épaisseur de C'est toi qui nous as sortis d'Égypte. Parce que c'était ça la caractéristique de Moshe Rabbeinu. Alors maintenant, comment on fait ça? Il ne suffisait pas de le dire, il fallait faire des choses. Et personne ne savait quoi faire. Et alors, on dit que c'est le Erev Rav, mais on ne va pas rentrer dans cette question. Mais disons que c'est le Erev Rav qui a soufflé. Nous, on sait faire. Mais ce qu'eux savaient faire, c'était des pratiques idolâtres, parce que la bête en question, le truc en question, c'était devenu un taureau, un veau, et que c'était aussi une idole égyptienne. Donc ils ont dit comment on donnait du poids à cette idole égyptienne. Et donc ça donnait des pratiques idolâtres. C'est le risque. Donc c'est très très difficile, et c'est pour ça que ce qui a été prescrit, c'est quoi, en fait? C'est un espace. Ça, non? Non. Ce qui a été prescrit, c'est de construire un espace, en fait. La présence d'Hachem, il va résider dans quoi? Dans un espace. Un espace, alors, il faut fabriquer un espace. Alors, c'est comme une maison. La fabriquer un espace, l'important, ce n'était pas les murs. C'était l'espace qui était entouré par les murs d'une certaine manière. Et puis ensuite, on a mis un certain mobilier dans cet espace. Un mizbéar, une menorah, un shulchan. Voilà, c'était ça. Donc, la chose qui est qu'on a pu faire, c'est on va faire une maison, c'est tout. Ce qu'Hachem m'a permis de faire, c'est une maison. Une maison sur le modèle de la maison de la fondatrice du peuple, Sarah Imenu, avec les caractéristiques de la maison de Sarah Imenu. Donc une maison. On va voir après, on va parler des COVID. Ça, c'est sur le mode du Kuzari. Donc, c'est plutôt une espèce de concession. Un peu comme le Rambam dit sur les korbanot. C'est une concession. Les Bnei Israël pouvaient pas faire, ils n'étaient pas capables de s'en passer. Et la troisième lecture de Rashi, c'est comme le Midrash. Le Midrash, il dit que le Mishkan, c'est le signe qu'Hachem a pardonné. Hachem me dit, je vous pardonne et la preuve, je viens résider parmi vous. OK. Ça, c'est donc l'idée générale sur le Mishkan. Alors, la paracha, elle commence comme ça. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Daber el Bene Israël, Veyikru li truma me'et kol ish. Asher itvenu libo, tikru et trumati. Daber el Bnei Israël, veyikru li truma. On aurait dû dire, Daber el Bnei Israël, veyitznu li truma. Ils me donnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont me prendre. Alors, regardez. Zotatrouma, et voilà la trouma, voilà la contribution donc que tu prendras. Alors, de l'or, de l'argent, du cuivre, de la couleur, enfin, du fil de la laine de couleur, du tissu et des peaux. Et puis aussi d'autres peaux et des bois et de l'huile. Et puis dans le verset Zayin, Avne Shoham ve Avne Milouim, la Ephod ve la Poshet. Donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les matériaux, ils sont énoncé dans un ordre de valeur décroissante. L'or, l'argent, le cuivre, etc. C'est vrai, sauf que tout à la fin, on parle d'Avne Shoham, Avne Milouim. Ça, c'est des diamants. Donc, c'est encore bien plus cher que l'or. Comment ça se fait qu'on ait mis tout à coup les avanim, les pierres en question, les pierres précieuses, les diamants, sont mis à la fin? Ça correspond pas du tout à l'ordre. Tout l'ordre est décroissant et en dernière position, on met la chose la plus grande valeur. Alors, c'est évidemment une question qui est, entre autres, posée par le Rahaïm. Il donne, en fait, trois réponses. Une première qui est une réponse technologique, si vous voulez. Les pierres précieuses, elles sont utilisées pour les Big Day que on a. Donc, dans Trouma, on va parler de Migdash. Et dans Tetzaveh, on va parler des vêtements des Kohanim. Les vêtements des Kohanim, c'est fondamental. Si Monsieur Cohen vient au Beth Amikdash et qu'il veut faire la Avoda, et qu'il n'a pas mis ses vêtements, il n'est pas accepté du tout parce que un Cohen sans ses vêtements n'est pas Cohen. Donc les vêtements, c'est fondamental. Et puis on nous dit, chaque vêtement, il apporte une kapara sur chacun sur une faute bien définie, etc. Mais les vêtements, c'est quand même pas aussi important que le Mishkan. C'est la raison pour laquelle les pierres précieuses, bien qu'elles vaillent plus que l'or, elles sont à la fin parce que elles ne participent pas à la même chose que les matériaux qui sont énoncés ici dans l'ordre décroissant. Deuxième réponse. Deuxième personne, dans la paracha de Pekoudé, on ne nous dit pas, dans paracha de Pekoudé, il y a la liste de tous les matériaux, et on nous dit combien de matériaux, combien d'or, combien d'argent on a utilisé, etc. Mais on ne nous dit pas qui a donné l'or, qui a donné l'argent, etc. Les seules choses sur lesquelles on nous dit qui les a données, ce sont les avanim, ce sont les pierres. Qui a donné les pierres précieuses en question? Ce sont les Nessiim. Le mot Nessiim, il a deux sens. Et Nessim, ça peut désigner soit les chefs des tribus, soit la pluie. Pourquoi est-ce que c'est ce qu'on veut dire par là? C'est qu'en réalité, la question se pose, comment se fait, pourquoi les Nessim avaient-ils des diamants? D'où leur venaient les diamants? Le Midrash dit qu'ils ont reçu les diamants dans la manne qui leur a été donnée. En même temps que la manne, bon, personne ne s'est cassé des dents, mais bon, il y avait des diamants dans la manne pour les Nessim. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que les Nessiim, quand ils ont donné les diamants, ils n'ont pas donné quelque chose qui leur a coûté. Alors que quand les gens ont donné de l'or et de l'argent, en fait, cet or et cet argent, on le sait, c'est le prix de le salaire de leur travail. Les gens ont travaillé comme esclaves et on a pris cet argent et comme on l'avait raconté, cet argent-là, il correspondait au salaire qu'on n'a jamais reçu, que les Bnei Israël n'ont jamais reçu. Donc, l'or et l'argent que les gens ont donné, ils ont donné des choses qui leur appartenaient dans la mesure où ils l'ont gagné, cet or et cet argent, par leur travail. Donc, eux, ils ont donné quelque chose qui leur a coûté quelque chose. Les Nessiim, ils ont donné quelque chose qui ne leur a rien coûté. Or, c'est un grand principe qu'on appelle le Fum Tzara Agra, c'est-à-dire le salaire, la récompense, est en fonction du travail, de la difficulté, de la souffrance éventuellement qu'on a eue pour l'obtenir. Et donc c'est pour ça que les Avanim sont mentionnés en dernier, parce que du point de vue du don qu'ils ont fait. Vous voyez, c'est comme des gens qui ont gagné à la loterie, quoi, si vous voulez. Donner de l'argent qu'on a gagné à la loterie, c'est moins difficile que de donner de l'argent qu'on a gagné à la sueur de son front. Il y a une troisième lecture. Il est que Hazal nous dise que la raison pour laquelle les Nessim n'ont pas donné en même temps que les autres, ils ont dit on va voir ce que donnent les autres et on va compenser, ce qui manque, on va le donner. Alors ici, la leçon, elle est que le chesed ne se fait pas en regardant ce que font les autres. Le chesed, tu dois donner ce que tu penses devoir donner. Tu n'as pas à regarder ce que font les autres. Et donc, comme les Nessim, ils ont regardé d'abord ce que les autres faisaient, savoir ce qu'eux allaient donner, mais il se trouve, finalement, on a bien vu que, effectivement, ils ont rien eu à voir. Ils n'ont pas pu participer à la construction du Mishkan. Puisque ce qu'ils ont donné n'allait que pour les vêtements. Donc effectivement, ils se sont retrouvés un peu coincés parce que dans l'hypothèse où ils voulaient compléter ce que les Bnei Israël n'auraient pas donné, il n'y avait plus rien à compléter. Les Bnei Israël en ont donné suffisamment, ils en ont même donné plus qu'il n'en fallait. Pardon? Je pense qu'il faut donner, et en plus, si tu penses après, bon, il va manquer quelque chose, alors tu feras un effort supplémentaire que tu n'avais pas prévu. Mais ne rien donner en attendant que les autres donnent.
Mais leur idée n'était pas très bien donnée. Leur raisonnement, c'est déjà tant qu'ils
Oui, mais donc ça veut dire on va voir ce que les autres vont donner. On va voir. Donc ils n'ont pas du tout. Ils n'ont pas dit ben moi je vais donner 1 kilo d'or ou 1 kilo d'argent, etc.
leur fortune sans limite.
Bon, il y avait une fortune. Mais la fortune de.
Vous savez. Oui, c'est généreux. Mais comme vous avez dit, c'était peut-être l'orgueil d'agir comme ça.
Que
C'est pas l'orgueil d'agir comme ça.
il y a aussi une dimension d'orgueil de penser que nous, on va compléter, c'est-à-dire le peuple va donner, nous, ensuite on va. Mais ça n'a pas marché du tout. Ils n'ont pas donné du tout. Finalement, ils n'ont rien donné pour le Mishkan.
Parce qu'il n'y
Ils
avait
ont
pas.
donné pour les vêtements. On n'avait pas besoin. Mais c'est pas l'essentiel, c'est que ce soit fait, quoi. C'est vous qui faites. Alors, pour moi, c'est l'essentiel que ce soit fait, donc faites-le.
Non, c'est justement, c'est pas ça, puisque chacun de nous son talent.
Non, alors les gens ont donné, mais eux pas. Mais ils n'ont pas donné, justement.
Pendant des années, je trouve que c'était un grand feu. Quand on voit des fois, on entend des gens, des bénévoles, des généreux donateurs, et puis arrosent des
Ben
gens.
oui, mais ils donnent, disons, ils ne se sont pas posé la question. Je ne donnerai rien du tout tant que je n'aurai pas vu ce que les autres ont fait.
Ça, je ne savais pas. Il n'avait pas formulé. Il
Je ne sais pas
donnait.
comment ils l'ont formulé, c'est une des réponses qui sont données par le Rahaïm, donc. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un est d'accord, il se trouve qu'il est prêt à donner tout ce que les autres vont donner. Encore, lui en plus, il va donner pour, il va doubler la mise. Ça veut dire, je vais donner autant que tout le monde ensemble. Même si je pense que, bon, ça c'est une générosité. Il n'a pas, c'est, quand on le dit comme ça a l'avantage d'encourager les gens. Ils disent, si moi je donne un peu plus, lui va donner aussi encore. Donc, je le fais donner. C'est en vérité, celui qui dit ça, il fait quelque chose de très grand parce que c'est plus grand de faire donner que de donner. Donc, en disant je vais doubler la mise, il fait donner plus. Les gens vont donner plus puisque lui va doubler. Alors, pour revenir sur le. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit, pourquoi la Torah elle ne dit pas, Daber el Bnei Israël, veyit nous li trouma, pourquoi vikrou li trouma? C'est que quand tu donnes de la tzedaka, tu reçois plus que ce que tu as donné. Vikrou li, c'est-à-dire c'est leur dire, Hachem leur a dit, vous pouvez prendre de moi. En donnant, vous allez prendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez recevoir plus que ce que vous avez donné. C'est une façon d'expliquer l'importance de la tzedaka, en fait. Alors, on va aller regarder en particulier la construction de, enfin, la fabrication de la menorah. Oh non, pardon. La fabrication du Aaron. C'est la première chose qui est fabriquée. Alors, c'est. Verset 10 du chapitre 25. Vasu Aaron Atseshitim, ils feront une boîte en bois de chitim. On a l'habitude de traduire chitim comme l'acacia. Amataim Vachetsi Orko. Deux amot et demi de longueur. Amma Vachetsi, une et demie de largeur et une et demie de hauteur. Une boîte comme ça. Deux et demi par un et demi par un et demi. Vetzipita oto zaav taor mi bayt u michutz. Il y aura de l'or à l'extérieur et à l'intérieur. Et au milieu, ce sera du bois donc. Et on va mettre des anneaux. Et dans les anneaux, on va y avoir, bon, on va pas entrer dans plus de détails. Des badims, on va mettre des bâtons pour les porter. Et puis au verset 17, Vasita kaporet zahav, tu feras un couvercle en or pur, amataim vachetsi orka, veama vachetsi rochba. M'arrête ici, et ici vous devriez dire quelque chose. On nous donne ici la mitzvah de construire, de fabriquer le couvercle en question, Kaporet, et on donne les dimensions de ce couvercle. Au moins, un esprit pratique devrait dire quelque chose, non? Pardon? C'est que? Oh, mais ça, on l'avait déjà vu sur sur le Aaron lui-même, non? Pardon, le couvercle? Oui? Pardon? Oui, ce couvercle, c'est complètement inutile de nous donner les dimensions, non? En général, le couvercle a les mêmes dimensions que la boîte. Pourquoi la Torah nous raconte les dimensions du couvercle? Je les connais, les dimensions du couvercle. Je connais les dimensions de la boîte dont il est le couvercle. OK? Donc, alors voilà. Donc maintenant la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire que de donner des dimensions au couvercle alors qu'on les connaît évidemment? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Pardon? Non, c'est juste, voilà. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de donner des dimensions du couvercle alors qu'on les connaît parfaitement bien, puisqu'il est le couvercle de la boîte? Bien sûr. Ah, c'est. Non, il est posé dessus, il couvert, il sait pas. Il va pas, c'est pas que ça va bouillir à l'intérieur et ça risque de sauter. S'il est posé dessus, il a exactement les bonnes dimensions. Qu'est-ce que ça dit sur le couvercle? Si on nous donne ces dimensions, alors, voilà. Ça veut dire que le couvercle, il a un rôle pour lui. Il n'est pas seulement ce qui couvre la boîte. C'est pour ça qu'on dit il a des dimensions à lui. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on dit Vasita Shnaim Kruvim Zahav. Miksha ta'aseh otam mishnei pitzot ha'kaporet, va'aseh kruv echad mikatzeh mizeh, kruv echad mikatzeh mizeh, mina kaporet ta'asu et ha'kruvim al shnei pitzotav. Bon, alors ici, il y a des psukim un peu difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire que, ben, grossièrement, ça veut dire que les kruvim, ils sont pris dans la masse. Dans la masse du caporet, dans la masse d'or du caporet. C'est comme ça, sur les côtés du caporet, dans l'épaisseur, on a comme si on tirait, imaginez que ce soit de la pâte, on a tiré et on a fabriqué le kruvim avec ça.
Oui,
Alors attendez, mais d'abord, ce n'est pas marqué qui se tourne, dans la Torah, ce n'est pas marqué. Non. Pardon? Non, non, lui, le couvercle, il est a priori en or. Dans le texte, en tout cas, il est en or. Donc, on a fabriqué les Kruvim, c'est des anges. Et alors, on nous dit, tu fabriqueras ces deux anges. Ils sont pris dans la masse, en quelque sorte. Bon, il y a à discuter là-dessus, mais c'est pas là-dessus que je voudrais parler maintenant. On nous dit, Vehayu, dans le verset 4, 20, Vehayu akuvim porseh knafayim lemala, sochechim bechanfehem al hakaporet, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני עקובים. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter des כרובים? Les כרובים, ils vont étendre leurs ailes, pour ses renafaim, vers le haut. D'accord? Vous voyez le couvercle? Les Kruvim, ils ont des ailes, ils tendent leurs ailes vers le haut. Sochechim bechanfehem ala kaporet. Sochechim, vous connaissez le mot sochechim, c'est le même mot que souka, c'est-à-dire ils forment une espèce de toit au-dessus, avec leurs ailes, au-dessus du kaporet. Et maintenant, leurs visages sont tournés ish el achiv. Les visages sont tournés, mais ils regardent. Upnehem ish el achiv et la kaporet yu upne akruvim. Mais en même temps, ils sont dirigés vers le kaporet. C'est-à-dire, ils font un toit comme ça et les. Il s'est penché vers le caporet. Qu'est-ce qu'on nous raconte là? Leurs ailes vont vers le haut, mais pas comme ça, comme vous dites, mais comme ça, telle sorte que là, le caporet est là. Donc, ils font un toit, une souka, quelque sorte, avec. Comme toi, les ailes et les murs, bon, ben, c'est eux, d'accord? Et le sol, c'est le caporet. Donc, qu'est-ce que ça définit? Ça définit un espace. Il y a donc un espace défini au-dessus du caporet. Okay? C'est un espace fermé, en fait, d'une certaine manière fermé par les ailes qui se touchent presque. D'accord? Donc, il y a un espace entre les ailes et le sol qui est le caporet. Ça définit un certain espace. C'est presque fermé. Mais, comme ça. Oui, d'accord, mais ça, on s'en fiche. Ça veut dire c'est couvert. Un espace couvert. Alors, continuons. Et alors, voilà, tu l'as fabriqué, ce couvercle. Alors, tu vas poser un caporet à l'Aaron Milmala. Donc, on va poser le couvercle au-dessus du Aaron. Ve'el ha'aron titen et ha'edut asher eten elecha. Et dans le Aaron, tu mettras les tables que je te donnerai. Donc, ici, on a l'impression que quand Hachem donne les ordres à Moshe Rabbeinu pour la construction du Mishkan, il lui dit qu'il lui donnera les tables. Ça veut dire qu'il ne les lui a pas encore données. Donc si Rashi dit que le Mishkan, il est construit, et même les indications qui sont données à Moshe, elles lui sont données après le veau d'or. Après que Moshe Rabbeinu ait obtenu le pardon, ben le pardon, il a eu lieu quand? Quand est-ce que Moshe Rabbeinu ramène le pardon? À Kippour. Et les ordres de construction, c'est de telle sorte qu'on va, c'est entre ces jours-là, immédiatement, de telle sorte qu'on puisse commencer la construction à Soukhot. Donc, que ça veut dire Asher Eten, il lui a déjà donné. Ce verset-là, il est un peu difficile pour Rachid. Alors, relisons ensemble le Rashi. Vel ha'aron titen et ha'edut. Et dans la boîte. En plus, c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? Parce que ce verset, tu vas mettre les edut. Les edut, c'est les tables, ouais. Tu vas les mettre dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a dit juste avant? Qu'est-ce qu'il y a juste avant, le passouk d'avant? Qu'est-ce qu'il a dit? Même pas le passage juste avant, c'est le début du verset. Le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Tu mettras le couvercle sur la boîte. Et après, il dit, tu vas mettre les louchotes dans la boîte. Il serait peut-être plus adéquat de dire d'abord tu mettras dans la boîte, tu mettras le couvercle après, non? OK? Alors, Rachid. Je ne sais pas pourquoi c'est répété. On a déjà vu, quand il a donné on a parlé des doutes, tu le mettras dans la boîte. Donc pourquoi est-ce que c'est répété ici? Viesh lomar, levado, Iten trila a edut. Pardon, le tocho. Ve acharka iten et a kaporet alav. Ve chen matzinu. Que chez Ekim et a Mishkan. Quand il a monté le Mishkan. Neymar va y tenir ta édoute à l'Aaron, mais Hakar va y tenir ta caporette à l'Aaron Milmana. Donc Rashi s'en sort en disant, plus tard ce sera mis dans le bon ordre. Il n'en fait pas un plat de ce que ici c'est. Une espèce de rappel. Je sais bien que dans la boîte, il y aura les louchotes. Mais ensuite, c'est marqué, alors là, il faut lire la suite du verset, on l'a pas lu encore. Venoadti lecha sham. Rashi dit, Keshe ekva moed lecha, ledaber imcha, quand je fixerai avec toi un rendez-vous pour parler avec toi, oto makom ekba le moed. C'est cet endroit-là que je fixerai pour notre rendez-vous. Cham. Cham, c'est où? Cham, c'est Al-Hakaporet. Vedibarti itcha me Al-Hakaporet. Je te parlerai au-dessus du Kaporet. Donc, dans cet espace, Mi ben shnei akruvim, entre les deux kruvim, c'est de là que la voix viendra à Moshe. Moshe va recevoir la voix divine de là, de cet espace fabriqué par les kruvim et la base du Kaporet. C'est en ça qu'on dit que le Kaporet, c'est un truc pour soi complètement. Il n'est pas simplement un couvercle de la boîte. Parce que, en plus, la boîte en elle-même, c'est très étrange. Parce qu'une fois qu'on aura mis la boîte, on aura mis les tables, les louchotes dans la boîte, on va fermer la boîte. Est-ce que quelqu'un verra un jour les louchotes? Personne, jamais. Le Kohen Gadol, quand il entrait, il n'ouvrait pas la boîte. Il priait, prosternait, il n'ouvrait pas la boîte. Dans la boîte, il y a les doutes, il y a les tables, mais on les voit, personne ne les verra plus jamais. Il n'y a plus, c'est fini. Ces tables, on ne les voit plus, elles sont cachées.
L'activité de l'État, c'est aussi l'activité de
À côté, probablement.
l'État. On ne peut pas faire de la prochaine. On peut faire
Je sais pas,
de
c'est là-bas, mais c'était sûr que dans la boîte, a priori, il y avait les
la prochaine.
loupottes et personne ne va jamais ouvrir la boîte. Mais en tout cas, Hachem dit, les rendez-vous que nous allons, où je parlerai avec toi, ils auront lieu là-bas. Ils auront lieu dans cet espace défini, entre les Kérouvim. C'est un espace un peu fermé, grâce aux ailes qui forment une souka, c'est-à-dire un toit.
Et moi, j'ai ramené mon ordi en préparant
Et non, moi, je suis revenu, il n'entrait jamais. Aaron va entrer, mais lui-même, il n'ouvrira jamais. Donc, personne ne va jamais ouvrir.
non, mais il n'a pas entré maintenant au collège Kolachim. Non, j'ai ramené.
Il n'entrera pas, alors. Mais il
Non,
n'y a pas de collège Kolachim pour l'instant. C'est les lois de fabrication.
rendez-vous
Oui.
La voix d'assez viendra là-bas. Mon cher Avignon.
Oui, mais lui, elle viendra de là-bas, mais lui, il ne va pas entrer là-bas. Donc, chez Avo Sham le Daber Elecha, je viendrai là-bas pour parler avec toi. Vedibarti itcha me'al ha-kaporet, et je parlerai avec toi d'au-dessus de Kaporet, ou Makom Acher ou Omer, Vaidaber Hashem Elav, Me'oel Moed, Lemor, Zeh Mishkan, Michutz la Parochet, Nimtzeu Shnei Kruvim. Il se trouve que donc les deux Kruvim, Makrushim ze et ze, donc a priori c'est Nektuvim, les deux Patsukim sont contradictoires. Oui, Nektuvim. Nektuvim, Makrushim ze et ze. Ba Katuba Shlishi, il y a un troisième verset qui vient et qui va trancher. C'est marqué, Ubevo Moshe Eloel Moed, Vaishma et Akol. Idaber Elav, Me'ala Kaporet, Moshe Aya Nichnas la Mishkan, et Kivan Sheba, Betocha Petach, Kol Yored, lui il entrait dans la porte, il arrivait dans la porte, et immédiatement la voix, elle descendait vers lui, venant, Minashamaim, elle descend du ciel, elle vient, Mi ben, le Ben Akruvim, ou Misham Yotse Benishma le Moshe Be'oel Moed. Ça parle depuis le Kaporet et ça arrive aux oreilles de Moshe qui lui est dans le Oel Moed, mais pas dans le Kodesh, la Kodesh. Alors, c'est pour dire que la voix, elle passait pas directement du ciel dans les oreilles de Moshe, mais c'est comme si elle résidait, la voix, elle commence par résider dans le Mishkan, Il y a une halte. Et où dans le Mishkan? Ben Akouvim.
Mais pourquoi elle s'est passée par le ciel? Ça vient un peu de...
Elle vient du ciel. C'est ça que ça veut dire. On veut dire que Hachem, il réside, il n'est pas en permanence. Hachem n'est pas en permanence. Quand il parle avec Moshe, ça ne veut pas dire qu'Hachem est dans le Kodesh HaKodashim. Ça veut dire qu'il y a une voix qui, elle, comme Rashi explique justement, la voix, elle passe par le Ben HaKrouvim, mais c'est la voix qui passe. Sur Hachem, on n'en sait rien, on dit rien du tout. Il dit, je viendrai te parler, ça ne veut dire pas je viendrai et je te parlerai, ça veut dire je viendrai te parler, j'enverrai ma voix, elle va transiter par le Mishkan et où précisément Ben HaKrouvim, et là-bas, toi, ton expérience, tu vas entendre une voix qui vient de Ben HaKrouvim. Alors, c'est intéressant, excuse-moi. C'est intéressant, c'est que ça ne vient pas du Aaron. On aurait pu imaginer que la voix, elle vient des Louchot, elle vient des tables de la loi, dans lesquelles la parole d'Hachem s'est gravée, donc ensuite elle pourrait très bien venir de là-bas. Elle ne vient pas de là-bas. Elle vient mais à la Caporette. Donc on n'y comprend rien, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ça doit venir de là-bas? Et avec ce risque de. Si c'était pour fabriquer un espace au-dessus du Caporet, alors peut-être on aurait pu le faire sans avoir des choses qui sont une représentation de Krouvim. C'est quand même étonnant. Et on sait, moi je ne sais pas. Pourquoi ça devait être des Krouvim? Krouvim, c'est des anges, mais.
Il y a un masculin qui est dans le groupe.
Pardon?
C'est de voir s'il y a un couple dans ces.
Oui, alors après, on va dire que ce couple d'anges, l'un représente Hachem et l'autre le clan Israël. Mais ça, c'est pas écrit dans la Torah. Oui, c'est-à-dire, c'est de fabriquer un toit, quoi. Si, c'est le seul moyen de.
Ces ailes de bouche, elles sont fixes une fois pour toutes.
Ah non, le.
Ces ailes, elles sont fixes une fois pour toutes.
Ouais. Oui,
Qu'est-ce
c'est les ailes de. Si lui, il bouge, alors ça. Elles,
qu'on peut pas.
elles sont fixes par rapport au corps du Krouv, évidemment.
Et c'est pour bien ce que.
Le Krouv, ici, on ne voit pas qu'il bouge. On a une Kabbalah qui dit que les Krouvim bougeaient. Mais ce n'est pas écrit dans le texte.
Ils ont fait une seule pièce, ça va bouger. Oui, la première pièce, on fait une seule.
Bien sûr, c'est sûr que la Drasha qui dit que ça bougeait, elle est, semble-t-il, à une autre échelle, contradictoire avec le fait que c'est d'un seul tenant avec le couvercle. C'est difficile d'imaginer. C'est pris dans la masse du couvercle et c'est quand même mobile. Mais bon, Hachem peut faire beaucoup de choses.
À mon niveau, avec la rationalité qu'il a mis en moi, je raisonne, je reçois avec
Avec une question. Pour
et...
l'instant, le texte ne vous pose aucune question. Enfin, il pose des questions, mais en tout cas, il ne pose pas cette question parce que le texte ne dit pas que c'est mobile.
Il y a un lien entre l'espace qui parle, on a parlé de l'espace qui.
Je pense bien qu'il y a un lien, mais ils ont le degré de Kdusha probablement différent.
Et après, il y a l'espace nous.
Et alors le problème, la présence en nous, il n'y a pas, chez nous, il n'y a pas d'organisation a priori avec un Aaron, avec des Louchot et avec des Krouvim, etc. A priori, Hachem veut résider dans le cœur tel qu'il est. Mais le cœur dans lequel il réside, il n'est probablement pas là, il est probablement là, hein. En phase, ça veut dire quoi? Oui. Parce qu'Hachem a décidé qu'il résiderait là. Hachem dit ici, voilà, j'ai décidé que ce serait ma résidence et j'ai décidé que quand la voile sortirait de cet endroit-là de ma résidence. C'est comme si on disait que le porte-parole de l'Élysée, il doit se tenir toujours au même endroit. La voix de l'Élysée, elle va sortir ici à la hauteur de cette colonne ou je sais pas quoi. Donc, ça sort toujours de l'endroit en question, mais à un endroit bien précis. Voilà. On va s'arrêter là.
Dans la notion de vie, que ce soit un espace où il y a rien qui s'achève, il n'y a pas quelque chose.
C'est pas.
Effectivement, tout le matérialisme, beaucoup avec ses produits. Il y a beaucoup de matérialité.
Oui. C'est le problème du Mishkan. C'est d'introduire du matériel. Pas n'y est pas là.
Je vais vous donner un peu de temps pour vous donner un peu de temps.